Média. Podcast.
Et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Média Radio pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous parlerons cinéma avec la nouvelle copie restaurée, notamment par la Fondation Martin Scorsese, du long métrage Sambi Zanga de Sarah Maldoror. Une très jolie, une brillante plutôt, opportunité de revenir sur cette cinéaste multifacette qui s'est beaucoup impliquée et dans le cinéma et l'engagement politique. Sinon, nous parlerons littérature avec le ciel qui bat son plein, donc le salon international de l'édition et du livre. Et nous aurons l'immense plaisir de recevoir Sami Manga. Il est écrivain camerounais, un artiste également accompli puisqu'il est écrivain, ethnomusicien, sculpteur, militant écologiste. Et aujourd'hui, nous parlerons avec lui de son essai, de son dernier livre, La Dent de Malumba, un essai fascinant sur la mémoire coloniale, l'héritage colonial. Qu'est-ce qu'on en fait des années plus tard? Où en sommes-nous, nous, en tant qu'Africains? Et puis, nous parlerons encore une fois littérature avec Véronique Tadjo et son roman « Je remercie la nuit », l'occasion jamais de revenir dessus. Et comme promis tout de suite, nous revenons ensemble sur l'événement Le Ciel, le Salon international de l'édition et du livre qui a battu son plein à Rabat. Et donc, qui de mieux pour nous en parler que Sami Manga, qui était là, poète camerounais, écrivain, musicien, véritable artiste multi-facette. Et il revient avec son roman, son essai baptisé La Dent de Lumumba, qui dénonce les atrocités coloniales belges au Congo et qui regarde en face cette hypocrisie du bourreau envers sa victime. Avec beaucoup de courage, de justesse, Sami Manga nous régale avec de La Dent de Lumumba, régicide contre la colonie. Et je pense que le titre veut tout dire.
Ce livre se situe un peu entre la croisée des chemins de ce qu'on voit aujourd'hui entre les politiques de restitution, la reconnaissance des crimes coloniaux. Alors, ce livre n'était pas du tout prévu, mais comme il n'y a pas de hasard, il a été écrit sur la base d'une activité, donc celle du colonisateur belge qui a rapatrié la dent de Patrice Lumumba en 2022. Et donc, moi, c'était un événement assez triste, assez douloureux, puisqu'on connaît très bien les circonstances de la mort de Patrice Lumumba qui sont innommables. Et après avoir passé ce chaos qui a plombé tout un pays comme le Congo, avec des millions de morts, on a vu cette histoire de la dent apparaître comme ça, comme étant un élément qui glorifie encore une fois de plus le colonisateur en ramenant la dent de Patrice Lumumba au Congo, ce que j'ai trouvé totalement indigne, parce que jusqu'à aujourd'hui, les crimes coloniaux commis au Congo ne sont pas reconnus de manière officielle par les bourreaux finalement, mais ils ont trouvé un moyen de faire un petit aveu en ramenant la dent, et ça c'est une posture qui ne nous arrange pas, parce que on n'a pas encore réparé les crimes congolais, on ne les a même pas évoqués, et on veut déjà nous faire passer à autre chose.
Et justement, cette nouvelle génération d'artistes africains, tout pays confondus, donc contrairement entre guillemets aux anciens, aux pères fondateurs, par cinéma, musique, peu importe le domaine artistique, eh bien on voit cette question de la mémoire plus présente que jamais. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. On a l'impression que nous, voilà, la deuxième, troisième génération, eh bien on a le courage, en tout cas, de se poser les questions et ce désir d'être en paix avec notre histoire, petit H, et notre histoire avec le grand H, puisque finalement, on a presque tous la même histoire commune. Hein. Ce n'est pas des protectorats, c'est des colonisations. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'artiste? Est-ce que l'art peut être un porte-parole puissant par rapport à ça?
Alors, on ne le dira jamais assez, ce qui reste, c'est la culture. Au-delà de tous les programmes politiques qu'on peut mettre en place pour notre humanité, la culture est un vecteur fondamental pour les esprits. C'est les esprits qu'il faut soigner, il faut éveiller les gens dans leur être intérieur pour qu'ils puissent appliquer les politiques, on va dire, qu'on a envie qu'ils appliquent. Si les gens ne sont pas réellement conscients par le biais de l'apport de la culture, de la poésie, des arts de manière globale, ce sont des gens, à mon avis, qui ne sont pas prêts à embrasser le changement. Et donc, les crimes dont on parle ici, ils doivent être connus, ils doivent être enseignés, ils doivent être lus pour que cela ne se reproduise plus. Donc, la littérature et la culture, c'est un vecteur puissant pour un développement durable.
Et en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'Africain, en tant qu'homme, est-ce que pour vous, ce sont encore des sujets tabous et pour les victimes et pour les bourreaux voilà, est-ce qu'on veut en quelque sorte être dans une sorte de déni? Est-ce que ça nous arrange plus que de vouloir avancer la conscience tranquille?
Alors, mais bien sûr, l'existence même de mon livre ou des autres travaux qui existent partout prouve bien qu'on fait ce travail parce qu'il n'y a pas une reconnaissance, parce qu'il y a un déni, parce qu'il y a quelque chose que, on va dire, le pouvoir colonial ou l'impérialisme même refuse d'accepter. Aujourd'hui, la question de la mémoire, des réparations est extrêmement fondamentale. Et donc, quand moi j'écris ces livres, ce qui se passe avec la Belgique, mais on voit qu'il y a une restitution de la dent alors qu'il y a tous les autres crimes qui entourent cette dent qui ne sont pas reconnus. Donc il y a un délit, il y a au niveau de la restitution des œuvres d'art, il nous amène une dent. Je rappelle que le Congo a au moins 150 000 œuvres d'art qui sont emprisonnées dans les musées en Belgique. On n'en parle pas. On n'en parle pas des 10 millions de morts du Congo pendant l'époque des Léopold II. On ne veut même pas parler des génocides. D'ailleurs, la Belgique parle de reconnaissance morale, simplement de manière légère comme ça. Donc, il y a bien un déni, il y a un refus systématique de reconnaître voilà, qu'il y a des gens qui ont souffert par l'apport et par l'appui des forces étrangères. Donc, nous, on doit faire ce travail. Alors, on ne dit pas que ce sont les autres qui doivent faire ce travail pour nous. On doit, nous, en tant qu'Africains, faire le travail de la mémoire, poser cette histoire sur la table pour pouvoir guérir de tout ce qui pèse sur nous pour aller vers une Afrique plus solide et fière d'elle-même.
Et c'est une question voilà, que j'avais posée également un auteur, un écrivain marocain. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis dessus. C'est vrai qu'avec la colonisation, on a tous hérité du langue, que ce soit le portugais, le français, l'anglais, peu importe, cette langue d'emprunt, hein, de colonisation qu'on a fait sienne avec le temps. Donc voilà, pour la plupart d'entre nous, on est bilingue, voire multilingue. Et est-ce qu'on est, même à travers cette langue, est-ce que, selon vous, on est vers... eh bien, on est en train de s'affranchir d'une pensée qu'on nous a imposée. Est-ce qu'on est vers une autonomie de la pensée qui est propre à notre culture, à ce qu'on est avant la colonisation?
Alors moi, je pense que si, hein, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, quelqu'un qui a dit que le français, pour nous, est un butin de guerre. C'est pas simplement, c'est aussi une langue qui est venue dans les bagages de la colonisation, mais qu'on a faite sienne aussi à un moment donné, qui est devenue autre langue. Donc, il est hors des questions qu'on se sente frustré parce qu'on pensera que c'est la langue du colonisateur. Non, c'est une langue humaine comme toutes les autres langues de la planète. Le français n'est pas une propriété fondamentale, une propriété privée de la France ou des Français. C'est une langue universelle. Et donc, moi, je me sers de cette langue comme de d'autres langues pour passer le message que j'ai envie de passer en termes de création, d'éveil, de conscience. Je ne m'embrasse pas vraiment de ces questions parce que la langue est un outil qui nous appartient à tous.
Et merci d'utiliser justement cette langue qu'on a fait sienne pour que nous, Africains, eh bien, on puisse avancer en paix et reconnaître eh bien, notre histoire et l'embrasser, même dans tout ce qu'elle a de plus horrible, et de l'accepter enfin pour que les générations suivantes eh bien, puissent être fières de leur histoire malgré les zones d'ombre. Merci beaucoup, Samianga, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir que de vous recevoir.
Mais c'est moi qui vous remercie. Je remercie le Salon du Ciel. Je remercie mon éditeur La Croisée des Chemins qui fait un travail magnifique pour la diffusion de la littérature africaine pour les Africains, par les Africains. On va rester fiers. Nos Fianga.
Merci beaucoup.
Et après avoir parlé littérature en compagnie de Samy Mangia pour la dent de Lumumba, régicide contre la colonie, on se fait une petite pause musicale. On se fait plaisir en musique avec Rema, Calm Down, un morceau qui dure dans le temps et qu'on aimerait écouter avec vous.
Oh, 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 oh
Rema, Calm Down, bien sûr, un énorme succès qui dure dans le temps. Tout de suite, eh bien, nous parlons cinéma avec eh bien, ce superbe film donc, qui a été restauré dernièrement. Et c'est vrai qu'on voulait absolument le partager avec vous. Un coup de cœur, Sambi Zanga, la copie restaurée initiée par la fondation de Martin Scorsese. Un film sorti en 72 et signé Sarah Maldoror, une cinéaste qui mériterait d'être plus connue, une brillante donc, opportunité à travers cette restauration de revenir eh bien, sur l'œuvre de cette femme qui s'est impliquée et dans le cinéma mais également à travers l'engagement politique et tout ça avec un langage rare et que l'histoire officielle, dite donc officielle du cinéma, n'a pas encore daigné regarder en face et encore moins reconnaître. Sambi Zanga, sorti en 72. Voilà donc un contexte idéal pour redécouvrir la cinéaste Sarah Maldoror grâce à cette restauration signée Martin Scorsese à travers sa fondation. Et donc, il faut voir cette œuvre Sambi Zanga donc dans le cadre historique et politique où elle a émergé. Tout comme son collègue Ousmane Samben, Sarah Maldoror est une artiste, une réalisatrice qui prend à corps les questions de la décolonisation et de la remise en cause du racisme dit structurel. Il faut savoir que son approche comprend aussi et surtout une dimension féministe affirmée avec beaucoup de vigueur, comme en témoigne Sambi Zanga où la figure du martyr de la guerre d'indépendance en Angola, Domingos Rabier, devient le prétexte à partager le point de vue et le combat de son épouse Maria qu'elle a choisie en tant que narratrice et que héroïne de son long métrage, une femme habitée par une force résiliente déconcertante et qui n'est pas sans lien avec l'histoire de Sarah Maldoror elle-même puisque celle-ci a dû s'occuper seule de ses filles pendant que son compagnon et père de ses deux filles vivaient sans cesse dans la clandestinité. La cinéaste a choisi donc une adaptation de l'ouvrage biographique initial avec beaucoup de liberté en favorant une approche féminine, sensuelle, poétique du monde traversé par Maria, sa super héroïne. D'ailleurs, en un montage parallèle, c'est toute une collectivité qu'elle convoque et qui se réveille tout simplement petit à petit à ses côtés, des plus jeunes aux différents individus et leurs diverses professions distinctes parmi les plus démunis de la représentation sociale et tout ça dans un élan manifeste d'humanisme et de solidarité. Tournée au Congo qui connaissait justement à ce moment même une succession de coups d'état, Sambi Zanga témoigne au plus près eh bien, d'une guerre coloniale en Angola qui n'était pas encore achevée au moment du tournage, chose qui réveille eh bien, le film encore plus sur le documentant avec cette réflexion sous-jacente politique sur l'état du monde, un film qui fait encore plus écho aujourd'hui alors qu'il a été créé en 1972. Et avant de nous quitter, je vous propose tout de suite eh bien, de parler de Véronique Tadjo, l'écrivaine donc, ivoirienne qui a notamment participé à Londres d'Imana où il est question de devoir moral de participer au processus de paix entre Kigali et Kinshasa. Et elle revient avec un superbe roman baptisé « Je remercie la nuit », un titre poétique qui nous interpelle tout de suite, où il est question eh bien, de deux jeunes filles, tout simplement, Flora et Yasmina, qui vivent en toute insouciance leur vie d'étudiante en Côte d'Ivoire avant que le pays ne sombre dans une crise politique. Du coup, malgré elles, elles sont prises dans la tourmente. Adieu l'insouciance, adieu cette jeunesse volée. Elles se reçoivent en plein visage eh bien, la réalité de leur pays, de leur histoire, de leur mémoire, de leur lignée. Et Véronique Tadjo le fait avec beaucoup de poésie, de tendresse. Il faut savoir qu'elle est poète, mais également romancière et peintre. Elle a vécu au Nigeria, au Kenya ou encore en Afrique du Sud. Et son œuvre eh bien, n'est plus à présenter, saluée à travers le monde entier. Je remercie donc La Nuit, son tout dernier roman qui a fait beaucoup parler de lui et que l'on voulait absolument vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, on écoute un tout petit extrait de Véronique Tadjo qui nous parle de Je remercie La Nuit.
Je remercie La Nuit est venu de mon désir d'explorer la vie de deux étudiantes Flora et Yasmina, inscrites à l'université d'Abidjan. Prises dans la tourmente d'une crise politique majeure, leur vie bascule dans le vide tout à coup. Pour fuir le danger, Yasmina doit retourner chez elle dans le nord du pays. Flora, quant à elle, se sauve en Afrique du Sud. Les lecteurs suivent leur parcours. Amitié, amour, espoir brisé, peur, solitude, mais aussi leur détermination à reprendre en main leur avenir. En fait, j'ai voulu montrer ce qui pouvait y avoir de commun entre deux pays qui me tiennent à cœur, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et au-delà de ça, tout ce que nous pouvions aussi avoir en commun avec le reste du monde. Les étudiants, je pense, sont des étudiants partout les mêmes. Et donc, au final, c'est l'histoire d'une génération qui refuse de baisser les bras face à un mauvais destin.
Je remercie la nuit Véronique Tadjo qui nous régale avec son tout dernier roman à lire d'urgence. Si ce n'est pas encore fait, avec beaucoup de confiance, c'est presque une certaine naïveté. Elle met eh bien en avant ces deux héroïnes qui vont se révéler être de véritables héroïnes dans la vie quotidienne en Côte d'Ivoire quand la crise politique soudaine vient eh bien ébranler leur pays. On arrive à la fin de l'Afrique en culture. Je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir que de vous accompagner. Je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est à écouter en avant-première sur Média Podcast. Et on finit en musique avec une jeune femme, tant qu'à faire, Sonia Nour Dawini. Très bonne écoute à tous et à très bientôt, toujours à l'écoute de Média.